Espace 2.
Leur monde est celui du contournement de la loi, des limites à enfreindre, de l'absence de scrupules, de culpabilité et de respect. Les valeurs leur sont totalement étrangères ou récupérées. Nous évoquons cette semaine le monde de la perversion narcissique en compagnie de Lita Basset, professeur de théologie et écrivain, et du psychiatre psychanalyste Maurice Urny. Michel Cocher au micro, Jean-Claude Gailly en régie, vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue.
À vue d'esprit.
Anne Béchère, bonjour.
Bonjour.
Alors, un monde dépourvu de limites et de valeurs, c'est l'occasion, lors de cette rencontre, d'évoquer les dynamiques courantes qui sous-tendent les valeurs, et notamment celles exprimées par la figure du Christ.
Oui, et ce sera également l'occasion d'évoquer la culpabilité dont les pervers narcissiques sont dépourvus, et on va comprendre pourquoi. Quatrième volet de cette rencontre entre nous, Lita Basset et Maurice Urny, autour de ce thème de la perversion narcissique qui soulève plein de questions essentielles, et notamment celle de la morale, des valeurs. Alors, si on s'intéresse au domaine de la perversion narcissique, qui en est complètement dépourvu, même si en apparence il peut y avoir beaucoup de morale, de conviction et même de certitude sur ce qui est bien et sur ce qui émane, jusqu'à des choses délirantes, il faut bien s'y attarder un petit peu. Minimum syndical, on va dire, et je pense que tout le monde, Lita Basset, Maurice Urny, vous serez d'accord là-dessus. Le minimum syndical entre les humains, c'est le respect de l'autre et de ses limites. Ça veut dire au moins essayer ou tâcher de ne pas faire à l'autre ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de base, d'accord. C'est fait.
C'est une règle qu'on retrouve dans toutes les religions, entre parenthèses.
Oui. Voir la promotion et la protection de la vie. Pour vous, Maurice Urny, ce qui semble incroyable, alors, dans ce que j'ai pu lire, c'est l'étonnement que semblent manifester certains couples de pervers narcissiques lorsqu'en consultation, vous leur tendez un miroir, comme si cela leur semblait mais complètement normal. Ils s'étonnent que vous vous étonniez, d'ailleurs, comme s'ils considéraient que tout le monde faisait pareil, amalgamant leur propre fonctionnement avec ceux des autres, comme si, c'est normal, le monde est une jungle et que tout leur est dû, quel qu'en soit le prix, justement, tout au plus peuvent-ils reconnaître une erreur stratégique ? Oh oui, j'aurais pas dû faire ça, je me suis fait pincer, mince, voilà, là j'ai été bête, et c'est la seule remise en question qu'il y a. On se dit, c'est pas possible que des gens comme ça vivent dans notre monde, ou nous dans le leur, je sais pas, sans qu'ils soient confrontés quand même à cette dégradation, voire des valeurs qu'ils voudraient maintenir pour eux-mêmes, mais qu'ils n'arrivent pas à maintenir, puisque c'est plus fort qu'eux.
Écoutez, vous posez beaucoup de questions à
en
la
une.
Fois, et peut-être, si vous me permettez, on va essayer de décanter votre intervention en plusieurs sous-questions. Vous avez énoncé quelque chose qui m'a beaucoup interpellé quand vous dites « ils vivent dans votre monde ou nous dans le leur ». Cette boutade, je la prends très au sérieux, vu l'évolution incroyable dans ce domaine des mœurs, de la morale, des valeurs et des repères moraux que connaît notre société depuis 100 ans. Par exemple, vous avez introduit ce sujet avec une sorte de précaution oratoire en disant excusez-nous d'aborder ce sujet, j'espère que vous n'allez pas en prendre ombrage, je vous assure on va faire le minimum syndical.
Non, mais le moralisme dogmatique est aussi effrayant que son inverse, enfin.
Oui,
un grand débat, mais
cette précaution oratoire, parce que bon, après il faut faire la différence entre moralisme, etc., mais disons, elle aurait été impensable il y a 100 ans, n'est-ce pas ?
Absolument.
Donc maintenant, avoir un jugement moral, une évaluation morale des choses, même sur des catégories aussi banales que le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la justice ou l'injustice, voilà une catégorie évidemment essentielle. Toutes ces notions sont des notions complexes, bien sûr, qui demandent chaque fois à être travaillées par chacun d'entre nous. Mais le simple fait d'avoir un jugement, d'exercer son attention là-dessus, sa réflexion, est aujourd'hui mal vu. on voit actuellement, par exemple, même le mot pervers qui était si chargé de sens, maintenant il y a tout bout de champ. Oui. L'effet pervers de ceci, etc.
Les effets pervers de ceci ou cela. Oui.
Voilà. Donc voilà une autre façon.
Le banaliser complètement.
Voilà, il est désubstantialisé au fond, ce concept de perversion. Et on le voit avec beaucoup d'autres termes, comme mariage, comme amour, comme fidélité. J'aimerais quand même, par exemple, donner un exemple précis de ce nivellement ou ces attaques très claires dans un journal tout à fait ordinaire avec le programme de télévision de cette semaine. Je vois un article assez important qui dit « voilà, tromper l'autre, c'est se réaliser soi-même ». C'est un message quand même très fort, enfin, qui interpelle et qui continue. « Si l'adultère était autrefois considéré comme un péché, il sert aujourd'hui à l'épanouissement personnel ».
Le fait qu'on puisse blesser quelqu'un d'autre,
ça n'entre pas en ligne de compte.
L'essentiel étant de se réaliser soi-même.
Voilà, le lien dont on parlait, par exemple, n'apparaît pas, disons. Hein,
c'est
la réalisation de soi-même, c'est le pur narcissisme. Et ça aboutit à cette phrase assez cocasse qui dit « Il est très tendance, entre guillemets, de posséder, pour une femme évidemment, à la fois une maison, des enfants, un mari et un amant. » Dans l'ordre. On voit là, comment dire,
toute c'est une nouvelle norme.
Et on n'est pas. En tout cas, ce qui tend à aller dans une nouvelle norme. Et par exemple, pour dire à quel point vous avez raison que ça soit une nouvelle norme, et c'est là que je vous rejoins en disant, tout à l'heure, vous aviez employé cette espèce de phrase eux chez nous ou nous chez eux. Il y a une bascule perverse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir des amants ou bien est-ce que c'est normal d'être fidèle? Et nous sommes, je crois, dans une situation qui n'est pas si claire que ça. Qu'est-ce que la société juge normal? Et je commence à avoir des gens qui viennent en thérapie pour ce problème, qui est évidemment un problème assez courant, et où la personne, mettons, victime, entre guillemets, disons, celle qui a été trompée par l'autre, se culpabilise
parce que
souffrir.
Ça lui fait quelque chose.
Voilà. Elle dit c'est pas normal que je sois comme ça parce que maintenant il faudrait pouvoir accepter
voilà,
que
l'autre. Voilà, je suis jalouse. C'est moi qui ai un problème.
Voilà, il faut. Je viens en thérapie. Bientôt il y aura des thérapies pour les gens qui souffrent d'avoir été trompés.
Alors, est-ce qu'il faut retourner à un ordre moral plus serré? Je ne sais pas. Je ne sais pas très bien quoi entendre dans votre discours.
Mais non, je crois que ce qui a été dit, vous avez dit vous-même dans votre introduction et que confirmé par ce qu'on vient d'entendre de Maurice Urny, c'est le respect de l'autre et de ses limites. Pour moi, c'est la boussole, c'est-à-dire qu'est-ce que l'autre, pour qui j'ai de la sollicitude et envers qui j'ai un engagement, avec qui j'ai un lien, qu'est-ce que l'autre peut supporter ou ne pas supporter, quelles sont ses limites, quelles sont mes limites à moi, et dans le dialogue, qu'est-ce que nous valorisons dans notre relation, et ensemble, on va trouver une manière d'être, une manière de nous comporter qui va être épanouissante pour les deux. Bien entendu, comme vous venez de le dire, ça va être différent d'un couple à l'autre, ça va être différent d'une personne à l'autre, parce que les sensibilités sont différentes, les attentes sont différentes, bon, les choix sont aussi différents, mais il me semble que pour moi, la règle d'or, c'est vraiment le respect de l'autre, dans le sens que si ma manière d'être, ma manière de vivre doit le blesser et vraiment lui pourrir la vie, je vais quand même y réfléchir à deux fois, quoi, et vice-versa.
J'aimerais rebondir sur cette idée essentielle du respect, n'est-ce pas, qui, je crois, est à la base d'un système de valeurs qui en effet comporte à la fois certaines valeurs intangibles, idéales, comme le juste, le bon, la vérité, etc., et d'autres repères moraux plus circonstanciels, liés à telle culture, à telle époque, etc. Ce que je veux quand même souligner, c'est à quel point il y a une dégradation de ces critères moraux, qui a toujours, par exemple, on a l'idéologie, la transgression. L'idée que c'est en transgressant telle ou telle limite qu'on est dans le coup, on est moderne, l'idée de la modernité, l'idée du progrès, enfin, il y a beaucoup d'idéologies qui convergent d'une façon que nous appelons maniaque, c'est-à-dire au fond d'une sorte de fuite en avant qui nous amène toujours à d'autres limites à transgresser, d'autres domaines à investir. Et je crois que cette démarche actuellement, et à ce point-là qu'elle touche à l'être humain, c'est-à-dire à l'essence même de l'identité de chacun qui, justement, on parlait de respect, n'est plus respecté. Je vais vous en donner un exemple qui me tient particulièrement à cœur. Je suis médecin. Savez-vous comment on appelle les médecins dans le langage de la Confédération et des lois qui sont en train d'être promulguées sur la médecine? On a commencé par les appeler des fournisseurs de soins. Et comme probablement ce n'était pas assez injurieux, maintenant nous sommes appelés des fournisseurs de prestations.
Des fournisseurs de prestations.
Fournisseurs de prestations. Vous voyez la dégradation à travers l'attaque
du langage. En quoi ça dérange de dire médecin ?
C'est la disqualification de votre d'une partie de votre identité. Hein, ouais.
Ah oui, oui, oui. Voilà,
fournisseurs de prestations. Vous aussi, Lita Basset, vous êtes fournisseur de prestations, moi aussi.
Pas.
On est en train de quantifier ce à quoi vous êtes utile.
Voilà.
Ou inutile.
C'est dans une sorte d'idéologie bureaucratique qui a segmenté notre activité en tranches de 5 minutes, par exemple, ce qu'on appelle le TARMED. Mm-hmm. Voilà, une autre attaque à l'identité, cette fois professionnelle. Voilà, enfin, je ne veux pas épiloguer parce que je parle en tant que médecin qui je suis très blessé, n'est-ce pas, de ces attaques-là. Mais il y a dans tous les secteurs de la vie actuelle, j'entends régulièrement, par exemple, des gens... même des cadres dans certaines entreprises qui sont licenciés d'une minute à l'autre, qui arrivent le matin à leur travail, qui trouvent un sécuritas, qui les accueille, qui leur dit « Cher monsieur, vous allez venir tranquillement avec nous, nous donner vos clés, le code de l'ordinateur, sans aucun préavis. » Et d'une minute à l'autre, ils se retrouvent avec leur petit commerce qu'ils avaient dans leur bureau dehors.
Ce qui revient
très grave, cette déshumanisation.
Ce qui revient, j'allais dire, dans le cas de complications avec les pervers narcissiques, en l'occurrence, c'est de remettre une limite quelque part, à un moment donné, puisqu'on parle, la limite ultime, c'est celle du respect de l'autre. J'aimerais aller un peu plus loin sur cette idée de morale aussi, en parlant des pervers narcissiques, parce qu'ils peuvent être très moralisateurs, eux aussi, très très moralisateurs. Ouais. Pour ne citer qu'un exemple que j'ai en tête, c'est un homme qui avait effectivement fait un mal incroyable à un certain nombre de personnes, pour ne pas citer le fait qu'il les ait torturés, et qui, lorsqu'il fait sa déposition en face de la police, dit « Vous vous rendez compte ? Et en plus, ils se sont oubliés sur mes chaussures. » Ce qui paraît complètement aberrant dans cette situation-là. Quelle est la place des valeurs morales récupérées, j'allais dire, dans le discours des pervers narcissiques ?
Il y aurait des parallèles à faire avec le légalisme, quand on parle du moralisme. L'exemple que vous donnez me fait penser à un autre exemple d'Alberto Aiguer, qui, sauf erreur, parlait de... C'était un dealer de drogue qui disait à son thérapeute... oui, ces clients aujourd'hui, on ne peut plus compter dessus, ils ne payent pas. Enfin, un discours de ce type-là. Ceci dit, je crois que le problème est beaucoup plus grave et beaucoup plus mystérieux aussi. Je n'aimerais pas aller trop loin, mais c'est vrai que le pervers est fasciné par la morale. Il sent là qu'il y a quelque chose qui lui échappe fondamentalement. De quoi est-ce que ça parle ? Qu'est-ce que c'est que ces catégories ? Dont évidemment lui n'a pas bénéficié au cours de son enfance, et donc qui sont lettres mortes pour lui. Par exemple, la loi, pour lui, ne signifie rien d'autre qu'un seul accommodement à la règle du plus fort, ou bien un simple règlement qu'on peut suivre ou pas, selon qu'on est bien disposé, ou que, ma foi, on y est contraint par justement une pression extérieure. Donc il n'y a aucune inscription de ce que veut dire une loi, et notamment d'une loi qui protège l'individu, le citoyen ou l'enfant, etc. La loi est uniquement vue comme une sorte de manifestation sadique et arbitraire, évidemment sur le modèle de ce qu'eux-mêmes ont vécu dans leur famille. Toute cette disqualification de la loi est essentielle chez le pervers, c'est-à-dire il va avoir un rapport... obsessionnel avec cette loi, dans le sens de chercher tout le temps à la bafouer. C'est pas simplement qu'il l'ignore, il veut montrer son inanité, il veut démontrer à quel point lui n'est pas soumis à cette loi, il se situe, comme vous l'avez parlé avec la mégalomanie, bien au-dessus, et va s'astreindre là à un comportement, une attitude qui vont contredire la loi. Tout ce comportement-là n'est pas du tout incompatible avec le fait qu'il s'instaure comme quelqu'un qui respecte la loi, que ce soit en allant à l'église. Il y a une sorte de comparaison qu'on peut faire d'ailleurs, qui est assez amusante. Moi, je pense souvent aux pompiers pyromanes.
Oui.
Hein? Une sorte de paradoxe là-dedans, que c'est vraiment le pire endroit où un pyromane peut se trouver, ou un pompier. Enfin bref, il y a là une contradiction dans les termes. Mais alors, comment éclairer ce paradoxe? Il y a encore beaucoup là de réflexion, je crois, à faire.
Si on parle, Lita Basset, de valeur, si on parle de morale, si on parle de respect de l'autre, alors il y a un thème qui a habité, j'allais dire, et vos préoccupations, vos pensées, votre travail et vos livres, c'est celui de la culpabilité. Dans le domaine de la perversion narcissique, il semble ne pas y avoir de culpabilité. Est-ce que c'est en lien, je ne sais pas, Maurice Surny, vous pouvez me rectifier ou non, avec le fait qu'à partir du moment où on ne peut pas, j'allais utiliser cette expression biblique, rentrer en soi-même, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de soi, parce que c'est un endroit tellement inconfortable, on est forcément victime de ce qui se passe autour. Hein. Raison peut-être pour laquelle on ne peut pas entrer en soi et donc qu'il n'y a pas cette culpabilité-là. Est-ce qu'il existe une culpabilité saine?
Non, mais parce que le problème, c'est que les gens se sentent coupables d'être coupables, de se sentir coupables. Mm-hmm.
Mais ça, c'est très tordu.
Parce que
alors.
Non, c'est pas du tout à la mode d'être coupable. Beaucoup, beaucoup de personnes souffrent énormément de sentiments de culpabilité, mais se culpabilisent de sentir ça, cette culpabilité. Le nombre d'enterrements de services funèbres où j'ai entendu que la première qualité qu'on reconnaissait à la personne décédée, c'était qu'elle s'était jamais plainte. Donc, c'est-à-dire voilà. Tout ce qui est l'expression du malheur, l'expression de la souffrance, c'est absolument pas si bienvenu que ça. Donc, la saine culpabilité, moi, je le mettrais en lien avec la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que de deux choses l'une, ou bien j'ai vraiment quelque chose à me reprocher dans le sens que je me rends compte que j'ai blessé quelqu'un, qu'il y a quelque chose que j'ai fait ou dit qui a été désastreux, enfin, ou qui a été problématique, et je vais le prendre en considération et, me sentir responsable de ça, et faire ce qu'il y a à faire. Ou bien, ça ne repose sur rien, et j'ai un sentiment de culpabilité qui est là, qui est chronique, qui est très handicapant, très invalidant, qui m'empêche de vivre normalement, qui me pourrit la vie. Et je ne sais pas d'où il vient. Là, dans ce cas-là, pour moi, il y a à chercher du côté des blessures. Parce que vous dites pourquoi j'ai beaucoup travaillé sur la question de la culpabilité, parce que pendant très longtemps, ça a été la pointe de l'iceberg. Je sais pas, plus j'avançais dans ce domaine de la culpabilité, plus je me rendais compte qu'en fait, il fallait regarder dessous. Et puis dessous, il y a des montagnes de blessures, de malheurs qui n'ont pas été pris en considération. Puis, je crois que c'est une clé quand même pour beaucoup, beaucoup de gens quand on leur dit, mais quand c'est une culpabilité qui justement correspond à rien de précis que vous pourriez vous reprocher, c'est qu'il faut aller chercher du côté des blessures. Nous transformons spontanément, l'être humain transforme en culpabilité ce qui est douloureux, si ça ne peut pas être intégré. L'idée, c'est que j'aurais pu faire autrement. Et ce qui me permet aussi de garder un pouvoir sur le malheur. Mais le problème, c'est qu'on va l'oublier, le malheur en question. Ces blessures-là, elles vont être enfouies et on va garder essentiellement la culpabilité. Alors évidemment, dans un système où en face de soi, on a un pervers narcissique, c'est de l'or en barre pour le pervers narcissique. Parce que évidemment, de toute façon, je me sens déjà coupable. Alors il n'aura aucune peine à me culpabiliser encore plus. Quoi.
Et ils sentent les failles. Hein.
Ah mais ils les sentent à 100 km à la ronde.
Ça vous tapait. Hein.
Ah oui, oui. Alors, ça me fait vraiment plaisir là, d'entendre Mme Basset parce que c'est tout à fait... ça correspond exactement à mon expérience clinique qui vraiment sépare et distingue radicalement une culpabilité noble, comme je la souhaite vraiment à tout le monde, qui est cette sorte de moteur de notre évolution, sur laquelle qui nous pousse à changer, à revoir notre attitude, à évoluer,
nous remettre en question,
etc. Qui vraiment n'a rien à voir avec ces blessures dont parlait Mme Basset et notamment quand elles ont été effectuées par justement le pervers qui rentre là-dedans comme dans du beurre. Enfin, la culpabilité, elle est essentielle. C'est donc une faille par laquelle le pervers n'a aucune peine à s'insinuer et qui va utiliser ce que j'ai appelé la culpabilisation. C'est-à-dire qu'il va injecter sa culpabilité chez l'autre, et ça sera la victime qui va se sentir coupable, par exemple, d'exister, ou enfin bref, elle n'a rien fait du tout, mais elle va porter le poids.
Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve quotidiennement, partout, je veux dire. Là, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic de pervers narcissique caractérisé. Je veux dire, c'est quand même des dysfonctionnements qui sont extrêmement répandus. Je me sens coupable, mais je ne veux pas me mettre en cause et je projette la chose sur le, et j'accuse l'autre. C'est archi, archi répandu.
Lita Bassel, Lucrèce, lui aussi, était entouré de piégeurs. Alors quel exemple nous donne-t-il? Quelles ont été ses réactions? J'ai envie de demander à Maurice Surny, mais comment on fait par rapport à un pervers narcissique? Voyons, alors du côté du Christ.
Alors du côté du Christ, on a plein de passages où ses adversaires cherchaient à le piéger. Et alors à certains moments, il y a des argumentations extraordinaires de la part de Jésus. À d'autres moments, ça va chercher encore plus profond. Et je pense en particulier au moment où il a une femme... a été arrêtée, prise en flagrant délit d'adultère. Vous voyez comme c'est tordu, ils veulent lapider cette femme au nom de la loi. Et en réalité, à travers ça, ils veulent coincer Jésus. C'est-à-dire la vraie raison, c'est on va voir si Jésus va jusqu'au bout de son enseignement qui met l'accent sur l'amour et l'accueil inconditionnel de l'autre, et ou s'il va obéir à la loi de manière légaliste, t'as fait ça, tu mérites ça, et qui va dire il faut la lapider. Et en fait, le texte dit clairement qu'il cherchait de quoi l'accuser, lui, pas elle, lui. Et j'étais bien rejointe par ce que vous disiez tout à l'heure de ce nivellement de nos valeurs, parce que en fait, quand Jésus dira quelques versets plus loin, moi je ne juge personne, il le dira justement après avoir traversé cet épisode très très dense de cette arrestation de cette femme, où justement Jésus va être d'une certaine manière tenté de réagir par la condamnation globale et massive de leur comportement pervers. Mais il va pas le faire. C'est ça qui est extraordinaire. Il est piégé, enfin, ils essayent de le piéger, et l'enjeu, c'est de trouver une raison pour le mettre à mort, en fait. Et puis lui, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans le silence, et il y a un silence prolongé qui est très important dans ce récit, où, pendant ce temps-là, moi, je suis absolument persuadée qu'il y a quelque chose de l'ordre du jugement qui est bon et qui est normal et qui est lié à une lucidité. Quand il dit « moi, je ne juge personne », juger, c'est krinein en grec, et ça veut dire évaluer, en fait. Ça veut dire peser le pour et le contre. C'est vraiment complètement ça. Sauf qu'il y a une manière de juger qui va jusqu'à la condamnation de l'être de la personne. Et c'est ce qu'il ne fait pas. Pendant ce long silence, en quelque sorte, il désamorce la tentation, peut-être, qui était en lui, de les condamner dans leur être, en disant c'est des pourris, c'est des monstres, c'est des horreurs. Non, il va dans le silence, et puis tout à coup vient de ce silence, mais alors dans une humilité, il est déjà assis par terre et en plus de ça, il a baissé la tête vers le sol et il est dans cette humilité-là, puis il dit, et il relève la tête, puis il dit que celui qui n'a jamais fait une seule faute lui jette la première pierre pour la lapider. Et à ce moment-là, il rebaisse la tête, il regarde rien, donc ça veut dire il n'est pas dans le triomphe, on parlait du triomphe tout à l'heure, et il laisse faire. Il retourne dans son silence et là, ils vont chacun sortir comme si ils avaient été rejoints par une parole, au fond, qui les renvoyait à eux-mêmes. Alors, vous me direz que c'est peut-être justement pas des pervers narcissiques complètement caractérisés, mais c'était quand même un joli comportement pervers. Donc, je dirais, suivant la situation, Jésus a été confronté à beaucoup de comportements pervers, mais selon la situation, la réponse était différente. Après, j'ai pensé aussi quand il a été arrêté, il y a un garde qui le gifle parce que le grand prêtre lui a posé une question et Jésus répond d'une manière tout à fait normale, il répond, et le garde lui donne une gifle. Et Jésus répond en vis-à-vis de la personne piégeante. Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi j'ai mal parlé. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Je trouve ça absolument lumineux. Parce que c'est quelque chose qui est transposable à toute époque, hein, je veux dire, de se tenir face à quelqu'un qui veut me piéger, qui veut me rouler dans une combine perverse, de lui dire d'égal à égal, d'être parlant à être parlant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le-moi. Et si ça va, ce que s'est passé, alors pourquoi me frappes-tu ?
Et dans notre langage, on dirait que Jésus, dans le premier cas en tout cas, était mis dans ce qu'on appelait un double bind. Oui. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse,
on est coincé.
Il n'y a rien qui marche.
Absolument. Hein.
Mm-hmm. Ça, les patients le décrivent à tout bout de champ dans les familles incestuelles. Il n'y a aucune issue. Et alors, vous avez décrit cette issue magistrale là de Jésus qui trouve le moyen non seulement de ne pas entrer en collision, comme vous le disiez là, avec la perversion, c'est-à-dire quelque part se rabaisser, c'est le risque, n'est-ce pas, dans la thérapie aussi, de devenir soi-même pervers, et au fond de désamorcer en une phrase toute la perversion ambiante, tout le sadisme groupal, n'est-ce pas, qui était là, et au fond de névrotiser tout ce sadisme dans une sorte de regard intérieur que chacun doit faire sur lui-même, avec la fameuse culpabilité, au fond, est-ce que je suis si bon que ça, etc. Donc avec cette phrase, il a réussi une sorte de chef-d'œuvre, je
et
trouve.
Et un renvoi à leur responsabilité.
Et avec encore, je trouve, le petit extraordinaire, c'est que tout le monde s'en tire la tête haute.
Oui, et c'est ça qui m'a frappé.
Il y a encore cet aspect-là, je trouve.
Non, mais là, l'histoire se finit bien. Bon, vous me direz, c'est le Christ, ça pouvait pas se finir autrement.
Ah non,
mais
non,
imaginez,
non, ça pouvait très bien finir
le premier
autrement.
Qui a jamais péché.
Et Jean-Baptiste, lance, ça finit autrement. Hein.
Lance la première pierre, il y en a un. En se disant, mais oui, bien sûr, j'ai péché, mais j'ai trop envie de le faire, il le fait. Ça aurait fini comment, cette histoire ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Là, l'histoire se finit bien.
Mais oui, mais je veux dire, lui, il n'est que Jésus. Mm-hmm. Il estime qu'il est un être humain parmi les autres. Il n'est pas le sauveur de cette femme. Ça, c'est l'Église qui dira par la suite que considérera Jésus comme le sauveur. Mais je veux dire, lui, dans sa vie terrestre, si cette femme devait... être exécuté par les autorités religieuses de l'époque, parce que c'était les autorités religieuses, mais ma foi, la vie de cette femme n'était pas dans ses mains à lui.
Maurice Urny, Elita Basset étaient vos invités, Anne Bécher. On vous retrouve une dernière fois cette semaine, vendredi, demain.
Pour parler de guérison et de pardon. En fin de semaine, ça fera du bien.
Alors, demain, guérison et pardon, donc dernier rendez-vous avec Maurice Urny et Elita Basset à votre micro, Anne Bécher. Rendez-vous pris pour ceux qui souhaitent plus d'informations, qui souhaitent une réaction, exprimer une réaction ou commander un CD. Vous pouvez nous contacter au 021 318 60 70. Et c'est maintenant dans l'air entendu que le programme d'Espace 2 continue son chemin.
Vocation journaliste, vous avez entre 20 et 28 ans et vous souhaitez vous lancer dans une carrière de journaliste. Participez à la bourse René Paillot. Cette bourse vous offre la possibilité d'effectuer un stage dans une radio française, belge, canadienne ou suisse. Intéressé, votre dossier de candidature doit parvenir avant le 10 mars à Radio Suisse Romande, bourse René Paillot, 1010 Lausanne. Règlements et renseignements sur rsr.ch ou au 021 318 11 11.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.